Dieu nous met en face de nos situations je te remercie. On peut compter sur sa grâce, quoi. Hein, c'est vrai. Les prédicateurs, enfin ceux qui prêchent, qui viennent en général, on a tous une. Bon, comment, on se sent. Comment dire, investi de quelque chose qui vient du Seigneur. Alors on veut faire le mieux possible et je dois reconnaître que parfois je ne fais pas le mieux possible. Et que quelquefois on peut amener de la tristesse aux frères et sœurs au lieu de leur amener de la joie. Et c'est vrai que quand on regarde la parole de Dieu, il y a pas mal de versets qui nous parlent de choses négatives. Et lorsque vous parlez comment dire, de Dieu à des gens qui ne sont pas dans le milieu religieux, ils voient toujours Dieu comme un père fouettard, comme quelqu'un qui est prêt à lancer son éclair comme Zeus pour punir la terre de tous les méfaits qu'elle est capable de faire. Et bien sûr, ils ont même des exemples bibliques, ces gens, pour vous le dire, regardez Dieu. C'est méchant, Dieu, il est méchant et il a tout tué au moment du déluge. Enfin, bon, le déluge n'existe pas, mais bon, bref. Enfin, ils essayent de vous expliquer que Dieu n'existe pas parce qu'il est trop méchant. Quelquefois, on se pose la question de savoir si finalement ils croient en Dieu, en un Dieu méchant, ou ils sont réellement athées. Vous savez, ils sont tellement contre Dieu qu'on finit par se demander s'ils ne sont pas vraiment croyants en quelque chose. Alors, je pense que. Enfin, moi, je vous exhorte tous à être des prédicateurs, hein, à venir de devant et de dire quelque chose que vous avez à cœur. C'est sûr que c'est important. Un petit verset de rien, une réflexion sur les chats, par exemple, c'est pas mal, c'est intéressant. Hein. On voit, on peut toujours faire des exemples avec la nature, avec les choses que l'on vit. Et moi, ce matin, j'ai envie de vous parler d'un verset, c'est celui de Néhémie, chapitre 8. Verset 10. La joie de l'Éternel sera votre force. Je confesse que parfois, je viens peut-être par exemple en disant, Seigneur, Seigneur, aide-moi à faire comprendre aux frères et sœurs qu'il faut qu'on se repente, qu'on soit meilleur, que l'on ait quelque chose de plus valable à montrer au Seigneur, etc. Et puis, j'ai eu à cœur justement ce verset-là en me disant, mais c'est vrai que de temps en temps, on est tout le temps en train d'exhorter les gens à être mieux qu'ils sont. Bah, c'est vrai, on peut toujours exhorter les gens à être mieux qu'ils sont. Et moi, je crois que le Seigneur m'exhorte à moi-même d'être toujours meilleur que je suis, parce que j'ai du boulot. Et je sais bien que je devrais être meilleur que ce que je suis. Mais est-ce que c'est ça que fait Dieu? Est-ce que c'est réellement cela que fait Dieu? Quand vous entendez, je sais pas moi, dans un film comme avec Pépineau, et puis je sais plus, enfin bref, un film avec Fernandel, je sais plus, enfin bref, lequel, mais qu'est-ce qui se passe? C'est que le curé est là pour toujours punir et dire à ses ouailles dans l'église catholique en question que ils vont aller en enfer, etc. Est-ce que Dieu fait ça? Est-ce que Dieu veut. Comment dire, nous amener à lui en nous faisant peur. Et c'est ça le problème. C'est vrai que je me suis aperçu quand il faut évangéliser, si on commence par dire aux gens, attention, là, le jugement dernier, et si vous ne faites rien, si vous ne vous repentez pas, il va vous tomber dessus. Alors, ce jugement dernier. Et les gens se disent, bon, non, on n'a pas besoin de ça. Et je ne crois pas que ça soit vraiment comme ça que le Seigneur veut que nous amenions l'Évangile. Vous voyez à peu près le schéma du révérend dans le Far West, hein, qui brandit sa Bible et qui dit que tous ceux qui vont dans les endroits de perdition seront perdus, etc. Vous voyez à peu près le schéma. Et ce schéma, beaucoup de gens l'ont sur les chrétiens. Alors je vous prends ce verset de Néhémie. Que nous allons lire, hein, bien sûr, mais Néhémie a sorti cette phrase pour encourager le peuple qui était triste. Le peuple était triste. Pourquoi ce peuple était-il triste? Parce qu'il venait de comprendre qu'ils n'étaient pas des super, qu'ils n'étaient pas méritants. Ils avaient l'impression que Dieu ne les voyait pas d'un bon œil. Pourquoi avait-il cette impression? Eh bien, c'est pas compliqué, c'est parce qu'on était en train de leur lire la loi de Dieu. En fait, nous sommes à l'époque, en moins 450 avant Jésus-Christ. Moins 450 avant Jésus-Christ. Depuis à peu près 150 ans, le peuple de Juda avait été déporté. 150 ans. Pour le royaume du Nord, hein, c'était encore pire, puisque c'était depuis 3 siècles. Hein. Vous vous souvenez, Israël était découpé en 2 morceaux, le pays de Juda, c'est-à-dire Juda et Benjamin, au sud de Jérusalem. Jérusalem faisait la frontière, si on veut. Hein. C'était le pays de Juda. Et le pays du Nord avait déjà été envahi depuis un siècle et demi, pratiquement, lorsque le royaume du sud de Juda a été lui-même aussi investi par Nébuchadnezzar. Donc, il n'y a plus personne. Tous ces gens avaient été partis, dispatchés dans la nature, en Assyrie, etc. 150 ans. Et ces gens, ils reviennent. La question que vous vous posez, c'est est-ce qu'ils étaient tous férus de Bible 150 ans plus tard, sans prêtrise, avec quelques rabbins qui étaient peut-être partis avec eux, hein, mais finalement, la connaissance de Dieu et de la loi avait été perdue. 1 siècle et demi. Donc, ils reviennent. Et qu'est-ce qui se passe? On va le voir, hein, on va le voir. Il y avait certains qui étaient pieux, qui avaient certainement gardé la foi, qui avaient gardé la Torah, et qui s'accrochaient à la Torah, ils n'avaient plus que ça d'ailleurs. Hein. Il n'y avait plus beaucoup d'Israélites qui connaissaient la loi. Alors tous ces gens qui revenaient en Israël ignoraient pratiquement tout le contenu des exigences de Dieu. Ils venaient de comprendre qu'ils n'étaient pas des super. Qu'ils étaient de terribles pécheurs. Ils étaient déçus d'eux-mêmes et ils ne le savaient même pas. Vous voyez, c'est ce qui se passe quand vous lisez Néhémie, vous apercevrez que il y a Esdras qui est là, Néhémie, et puis tous les scribes, tous les lévites qui sont là, qui connaissent la loi et qui la commentent. Alors, ils sont tous en train d'écouter la loi, religieusement, c'est le cas de le dire, et puis, Hein? Tout ça? Mais nous sommes pécheurs. Vous voyez, ils s'aperçoivent tout d'un coup qu'ils sont pécheurs. Alors, ils se mettent à pleurer. Ils se mettent à comprendre, peut-être, pourquoi ils ont été déportés. Ça venait de leur tomber comme une tuile sur la tête. Et ils disaient dans leur cœur, Dieu n'est pas avec nous. Dieu est contre nous. Et nous comprenons pourquoi. Dieu n'est pas avec nous, il est contre nous. Et nous comprenons pourquoi. Je dis cette phrase dans le sens que vous savez qu'il nous a dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Hein? Dans le Nouveau Testament, on a un verset qui nous dit ça. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous les chrétiens, nous savons que si Dieu est pour nous, personne ne peut être contre nous. Mais eux, c'était pas ça. Ils avaient compris par la loi, leur propre loi, que Dieu était contre eux. Alors, ils sont tristes. Alors Néhémie leur répond, ne vous découragez pas, soyez au contraire dans la joie de l'Éternel. Et je pense que nous, lorsque nous transmettons l'Évangile, ça doit susciter la joie. Mais il y a quand même un petit bémol, il y a quelque chose à voir, c'est que pour transmettre la joie de l'Éternel, il faut quand même dire les choses comme elles sont. Voilà. Alors nous allons essayer de nous remettre dans l'ambiance de l'époque. Donc je vous ai bien dit, entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ, les rois d'Israël et de Juda, avec le peuple, avaient tellement péché que Dieu avait décidé de se séparer de son peuple. Pourtant, Dieu avait promis à Abraham que jamais il n'abandonnerait sa postérité. Mais ils ont été tellement forts qu'il était impossible que Dieu reste silencieux. Ils ont fait pire, nous est-il dit à des endroits, que les populations qu'ils ont évacués du temps de Canaan, de la conquête de Canaan. Alors, on ne peut pas désigner tout ce qu'ils font. Vous avez assez d'imagination pour le comprendre. Vous savez que Moloch, c'était un dieu particulier. Hein. On a quelquefois des images, je l'envoie. Moloch, c'était une grosse statue avec une bouche énorme en forme de chaudron. Et les fours crématoires, c'était déjà l'époque. Hein, et donc les enfants étaient jetés là-dedans. Voilà. Enfin bref, il n'y avait pas que ça, il y avait aussi la prostitution sacrée, il y avait les poteaux d'Achéra, il y avait les cultes à Baal, aux Astartés, pour bénir les récoltes et permettre que les récoltes viennent, il fallait montrer de la fécondité, et ça se faisait dans des situations complètement tordues. Hein. Voilà. Ils ont été tellement forts qu'il était impossible que Dieu reste silencieux. Et les responsables, surtout, entraînèrent le peuple à des pratiques idolâtres aussi terribles que celles des anciens habitants du pays. L'avortement, à l'époque, ben, consistait à se débarrasser des enfants dans une fournaise. Comme je vous l'ai dit pour le dieu Moloch, il y avait des lieux d'idolâtrie, les poteaux de Baal, d'Achira ou d'Astarté, où on célébrait la fécondité par toutes sortes de prostitutions. Bref, tout ce peuple, pour ce peuple, Dieu n'existait plus. Et Israël avait oublié qui était son sauveur. Ils étaient sortis d'Égypte, et puis avec tout ça, ils avaient oublié qui était Dieu, le sauveur d'Israël. Dieu avait été tellement dégoûté qu'il avait abandonné son peuple à ses mauvais désirs, mais avec la promesse de restaurer l'engagement qu'il avait pris avec Abraham. On voit ça dans différents textes, en particulier dans Ésaïe, au chapitre 55, 55, 51, enfin bref, voilà. Et finalement, après quelques siècles de déportation, quelques siècles, Dieu ramène son peuple dans son pays et ramène l'esprit du peuple à lui. Et comment le fait-il? Par la lecture de la loi. Et par la lecture de la loi, le peuple revient à Dieu et il dit: Oh, quelle horreur! Pas la loi, eux. Nous sommes horribles face à la loi de Dieu. Mais comment ramener un peuple ignorant et déséquilibré vers la loi de Dieu? Dieu est bien obligé de dire à ce peuple comment il est réellement devenu. Pour que ce peuple comprenne qu'il est pécheur, Dieu est obligé de lui remettre la loi devant les yeux. C'est la même chose que pour nos frères et sœurs du monde, puisque ce sont aussi nos frères et sœurs, pas dans la foi, mais qui sont peut-être un jour des gens qui viendront à lui. Ces gens-là, ils s'imaginent qu'on peut vivre comme ça. Et quand on leur met la loi de Dieu devant les yeux, il se passe quelque chose, comme il s'est passé quelque chose pour ces pauvres Hébreux déportés qui sont revenus à Jérusalem. Ils pleuraient. Ils pleuraient sincèrement. C'était pas du chiqué. Et c'est devant cette loi, avec des yeux spirituels, que le peuple prend conscience qu'il est loin de Dieu. Nous allons donc lire dans Néhémie le début du chapitre 8, et vous constatez que tout le monde était attentif, qu'ils avaient compris que Dieu les ramenait à lui, non pour les punir, mais pour les éclairer dans leur début de chemin spirituel de retour vers Dieu, vers leur retour vers le bonheur. Avec Dieu, si nous voulons marcher avec lui, il y a toujours une première démarche qui est désagréable. Désagréable. La mise en lumière de notre culpabilité, de notre péché. Le début avec Dieu, c'est pas rigolo. Mais c'est après que la joie démarre. Alors, Néhémie, chapitre 8. Néhémie, chapitre 8. Alors, tout le peuple s'assembla comme un seul homme sur la place qui est devant la porte des eaux, et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse, prescrite par l'Éternel à Israël. Et le sacrificateur Esdras apporta la loi devant l'assemblée, composée d'hommes et de femmes et de tous ceux qui étaient capables de l'entendre. C'était le premier jour du septième mois, donc le jour de la fête, hein, la fête de Soukhot. Esdras lut dans le livre depuis le matin jusqu'au milieu du jour, sur la place qui est devant la porte des eaux, en présence des hommes et des femmes et de ceux qui étaient capables de l'entendre. Donc, ils insistent bien, la parole de Dieu insiste bien, ceux qui étaient capables de l'entendre, pas les nourrissons, les gens qui étaient déjà adultes, hein, à partir de 8 ans, 10 ans peut-être. Tout le monde fut attentif à la lecture du livre de la loi. Esdras, le scribe, était placé sur une estrade de bois dressée à cette occasion, donc on le voyait bien. Auprès de lui, à sa droite, se tenaient Matitia, Shema, Anaya, Uri, Ilkiya, Maseja, et à sa gauche, Pedaya, Michaël, Malkiya, Hashum, Oh là là, celui-là, il a un nom. Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était levé, élevé au-dessus de tout le peuple. Lorsqu'il l'eut ouvert, tout le peuple se tint en place. Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu de tout, et tout le peuple répondit en levant les mains, « Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. » Et ils s'inclinèrent et adorèrent l'Éternel, le visage contre terre. Josué bannit Chérébia, Jamin, Akoub, Shash, Bétaï, Odidia, Maseya, Kelita, Azaria, Yozabad, Anan, Belaja et les Lévites expliquaient la loi au peuple. Et chacun restait à sa place. Ils lisaient distinctement dans le livre de la loi de Dieu et ils en donnaient le sens pour faire comprendre ce qu'ils avaient lu. Ah, ce serait bien si les musulmans pouvaient avoir des scribes qui viendraient leur donner le sens, le véritable sens du Coran, pour qu'ils comprennent le Coran, les amène à la Bible. Ce serait super. Mais bon, on peut toujours prier pour ça, mais bon. Enfin, toujours est-il qu'ici, c'était bien des juifs qui ne comprenaient pratiquement plus la loi et qui avaient besoin d'explications de textes, d'études bibliques, si vous voulez. Et puis, alors, on l'expliquait. Qu'est-ce que signifie ceci? Que signifie cela? Que signifie ceci? Que signifie cela? Pourquoi il fallait offrir un agneau? Pourquoi il fallait passer par la cuve ensuite? Pourquoi il fallait rentrer? Pourquoi les sacrificateurs devaient entrer dans la tente d'assignation? Pourquoi une fois par an, il fallait tourner, il fallait mettre un petit goutte de sang sur le propitiatoire qui se trouvait dans le lieu secret qu'on ne pouvait voir qu'une fois par année, uniquement le souverain sacrificateur? Tout ça, il fallait tout expliquer. Et ces gens ne comprenaient pas pourquoi. Et il fallait leur expliquer. Néhémie, verset 9, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et le scribe, et les Lévites qui enseignent le peuple dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes. » Ah oui. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'ils étaient en train d'expliquer. Et ces scribes, Esdras, Néhémie, regardaient les gens. Puis on voyait une goutte de larmes qui tombait d'un œil et de... Oh, puis lui aussi, puis lui aussi. Oh, ils sont tous en train de pleurer. Il faut faire quelque chose, là. Donc, mais c'était très bien. Dieu était en train de toucher le cœur de ce peuple et de leur montrer, et ça se voyait à un moment donné par des larmes, qu'il n'était pas top, que devant la loi de Dieu, il n'était pas top. Alors, c'est vrai, quand on s'approche de Dieu, c'est pas rigolo. Il nous montre notre péché. C'est ce qui se passe. Alors, quand je vous dis « la joie de l'Éternel sera votre force », c'est vrai que ce n'est pas la première des choses qui arrivent quand on s'approche de l'Éternel. Alors, « ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. » Et ils leur dirent « allez, mangez des viandes grasses et buvez ce qui est doux. » Et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé. Faites des cadeaux à ceux qui n'ont pas pensé à le faire. C'est la fête. Car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances, car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ils avaient compris. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils avaient compris? Ce message que je vous donne, ce n'est pas nouveau, bien sûr, vous le savez. C'est vrai qu'on répète toujours la même chose. Mais bon, peut-être que le Saint-Esprit nous aide à comme quand je lis ma Bible, il y a des moments, et ça vous arrive, où on le lit comme si c'était la première fois qu'on avait vu un truc qu'on n'avait jamais vu avant. Hein? Voilà. Dans Matthieu, chapitre 5, verset 3, il nous est dit, vous le connaissez, « Heureux celui qui a conscience d'être pauvre spirituellement. » Celui qui a conscience d'être pauvre spirituellement, ben, parce qu'alors, il est déjà sur le chemin de la vie. Hein. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume de cieux est pour eux. C'est ça. Donc, Jésus est en train de dire la même chose que ce qui est dit dans la loi du temps de Néhémie. C'est quoi? C'est que, ben, quand on prend conscience de ce qu'on est, on est sur le chemin de la vie. C'est pas rigolo? C'est plutôt négatif, mais c'est au moins authentique. Alors que nous avons, dans le système actuel, plein de choses lénifiantes, plein de choses en Occident ou un peu partout qui mettent le monde sous une chape d'inconscience et de manque de conscience de ce qui se passe. Hein? L'islam est une chape terrible qui est sur le monde musulman et qui ne permet pas aux musulmans de prendre conscience qu'ils sont pécheurs. Ils sont meilleurs que les autres, pensent-ils. Il y a des chrétiens qui pensent aussi qu'ils sont les meilleurs que les autres. Mais nous, les chrétiens authentiques, et nous sommes authentiques, nous savons que nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Et c'est ça qui va susciter chez nous de la joie. Pourquoi? Parce que le Seigneur veut nous amener à être vrai avec lui. Et quand on est vrai avec quelqu'un, on se sent mieux nous-mêmes. C'est vrai quoi? Pourquoi Dieu demande aux hommes de se confesser le péché, de confesser son péché? Dieu n'a pas besoin, il n'est pas voyeur, il n'est pas méchant, il se réjouit pas de voir des gens pleurer et souffrir. Il se dit, ben tiens, c'est bien, tu souffres, et ben c'est bien fait, c'est ce que tu mérites, etc. C'est pas tout à fait ça, l'idée de Dieu. Dieu, lui, dans sa tête, il veut que nous, enfin dans sa tête, il veut que dans notre tête, nous puissions être authentiques avec nous-mêmes. Et si nous avons un éclairage sur nous qui est authentique, alors à ce moment-là, ça va aller beaucoup mieux. Pour nous-mêmes, pas pour lui, parce que lui, il connaît tout. Avec Dieu, si nous voulons marcher avec lui, il y a toujours une première démarche qui est désagréable. La mise en lumière de notre culpabilité, de notre péché. Et c'est ce que dit Jésus. Heureux celui qui a pris conscience d'être pauvre spirituellement. Parce que là, il commence à être sur le chemin de la vie. Et puis, dans 1 Jean, chapitre 1, versets 7 à 10, si nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, hein, je paraphrase un peu ce qui est dit dans 1 Jean 1, 7 à 10, si nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, alors nous vivons en pleine lumière. Si nous ne voulons pas vivre dans le mensonge, nous vivons en pleine lumière. Nous pouvons voir nos propres péchés, les uns des autres, mais nous ne nous mentons pas à nous-mêmes. On ne se ment pas à soi-même. Ni à nous-mêmes, ni aux autres. Alors nous savons que nous sommes pécheurs et que le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Pour que le sang de Jésus-Christ, son Fils, me purifie de tout péché, ben, il faut que je sois au moins conscient de mes péchés. Ça me paraît évident. Et pour ça, Dieu est obligé d'ouvrir les rideaux et dire, regarde, c'est pas beau, hein. Voilà. Alors, on peut fermer les rideaux, mais on ne pourra pas être purifié de tous nos péchés. Voilà. Nous n'allons pas prétendre être parfaits. C'est ce que dit aussi Jean, parce qu'il est en train de dire à Jean, l'apôtre Jean, hein, qu'il y a des gens qui se croient parfaits, des gens chrétiens qui se disent parfaits. Les musulmans, sachez-le, sont supérieurs, enfin, dans leur tête, ils sont supérieurs aux autres. Et nous avons beaucoup de religieux qui, en général, se disent supérieurs aux autres. Et quand ils sont supérieurs aux autres, vous savez qu'ils s'abaissent. Celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Nous savons que nous sommes pécheurs et que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous n'allons pas prétendre être parfaits. Nous n'allons pas juger les péchés de l'autre parce qu'on en a déjà assez avec le nôtre. Parce que nous connaissons un peu le prix de notre rachat, le prix de la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc on revient dans Néhémie, si vous voulez. Hein? Chapitre 8, c'est très bien que les gens du peuple se soient mis à pleurer. C'est très bien. C'est très bien parce qu'ils ont pris conscience de leur état. La lumière de la loi a éclairé les ténèbres de leur esprit. Dieu ne le leur reproche pas. Il ne leur reproche pas d'être désolés. Mais il veut que le peuple aille plus loin. Si tu restes à pleurer sur ta situation, ça ne sert à rien. Il faut comprendre que Dieu éclaire pour que tu t'en sortes. Dieu nous éclaire pour que nous nous en sortions. C'est ça la repentance. La repentance, ce n'est pas simplement cette confession des péchés, mais c'est toute cette démarche qui est de la lumière qui vient en nous et qui fait que ben, on va pouvoir aller sur un chemin qui est celui de la vie. La joie de l'Éternel. Dieu n'est pas un être sadique qui veut entendre les gens, qui, qui, qui veut entendre les gens, qui veut les voir se courber devant lui, en faisant des courbettes et en l'adorant parce que c'est lui le seul vrai Dieu, c'est vrai, mais c'est pas ça qu'il cherche. Il voudrait que tout le monde s'aplatisse devant lui? Non. Dieu est doux et humble de cœur. Non, c'est pas cela. Il recherche. Il cherche à nous guérir. Quand nous confessons notre péché à Dieu, c'est pas comme à confesse où on pense qu'on va être libéré par un système technique, religio-technique, mais c'est parce qu'il veut que je puisse comprendre qui je suis pour pouvoir m'en délivrer, me délivrer de ce qui ne va pas. Pour être guéri, il faut savoir qu'on est malade. D'ailleurs, c'est Jésus qui le dit lui-même, c'est ce qu'il disait aux pharisiens. C'est pas les gens bien portants qui ont besoin de médecins, ce sont les malades. Voilà. Et on le sait, hein, on le sait. Alors, nous voyons que le peuple de la tristesse est passé à la joie. Pas n'importe quelle joie. La joie de l'Éternel. La joie de l'Éternel. La joie produite par l'Éternel. Pas la joie profane de la fête du veau d'or qu'ils avaient eue il y a bien longtemps, bien avant. Enfin, c'était pas eux, mais c'était d'autres. Hein. Mais cette joie que quelquefois des gens d'aujourd'hui essayent d'avoir en étant excessifs dans leur expression de joie et qui ne montrent qu'une seule chose, c'est qu'ils ne sont pas vraiment heureux et qu'ils ne sont pas authentiques. La joie de savoir que Dieu désire la lumière et que cette lumière entre dans sa créature et lui-même y entre aussi à ce moment-là. Et donc, du verset 10 au verset 18, nous voyons dans Néhémie que nous reprenons. Hein, vous voyez au verset 18, on l'a lu, hein, on a lu une partie, mais on va le relire. Du 10 au 18, ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez ce qui est doux. Il y en a d'autres qui disent, buvez même des liqueurs. Hein, donc, bon, évidemment, de manière modérée. Hein, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera notre force. Ce qui fait votre joie, frères et sœurs, ce qui fait ma joie, c'est quand des gens me disent, mais quand ça s'est été toujours joyeux, toi? Un jour, quelqu'un, à l'époque, je crois que je l'ai déjà dit d'ailleurs, au travail, et puis il dit, mais toi, t'es toujours gay. Je dis, écoute, Marie-Paul, dis plutôt toujours joyeux, parce que le terme gay a pris un autre sens qui aujourd'hui me gêne un petit peu. Si je suis joyeux, c'est bien. Je préfère que tu me dises que je sois joyeux, c'est mieux. Hein? Bon. Et c'est ça, notre joie, la joie que l'Éternel donne, nous permet d'être parfois, même dans la tristesse, avoir un petit point de joie qui se voit. Hein? Ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps exubérant dans la joie, parce qu'il y a des moments où c'est vrai qu'on est quand même éprouvé par le Seigneur. Mais il y a une joie qui est profonde, et qui est cette joie de l'Éternel. Hein? Donc, ici, hein, la joie de l'Éternel sera votre force. Verset 11, les Lévites calmaient tout le peuple en disant, taisez-vous, car ce jour est saint, ne vous affligez pas. Donc c'était une conscience spirituelle de leur péché qui était assez forte. Hein? Hein? Ils sont obligés de dire, non, attendez, on n'est pas là pour ça. On est là pour que vous ayez conscience, bien sûr, mais ce n'est pas ça. C'est d'être se réjouir, hein, se réjouir. Et tout le peuple s'en alla pour manger et boire, pour envoyer des portions et pour se livrer à de grandes réjouissances. Car ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Dieu veut nous révéler ce que nous sommes pour que nous puissions en sortir. C'est merveilleux. Vous connaissez des gens, ils sont tout le temps super, bien, inattaquable, parfait. Et vous avez l'impression qu'ils sont tellement trop parfaits que vous apercevez qu'ils sont en train de faire des murs autour d'eux parce qu'ils ne veulent pas qu'on voit ce qu'ils sont. Les chrétiens sont en général, enfin en tout, dans le milieu évangélique, sont assez, peut-être même un peu trop de temps en temps. Il faudrait qu'on fasse attention à ne pas montrer notre péché trop souvent quand même, quoi. C'est pas parce qu'on est pécheur que bon. Hein. Mais voilà, hein. Et il y a des gens qui sont vraiment très hermétiques. Le second jour, les chefs de famille et tout le peuple Les sacrificateurs et les Lévites s'assemblèrent auprès d'Esdras le scribe pour entendre l'explication des paroles de la loi. Et ils trouvèrent écrit dans la loi que l'Éternel avait prescrite par Moïse que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, la fête de Soukhot, que les Hébreux pratiquent encore aujourd'hui, hein, vous savez, et ils vont faire des cabanes, et les enfants sont tout contents. Vous imaginez faire des cabanes. Alors, ils font des cabanes, et alors ils les mettent sur le toit de la maison, parfois ils les mettent à l'intérieur quand ils ne peuvent pas faire autrement, mais en général, c'est la fête. C'est vraiment la fête. Mais c'est la fête de quoi? Bah, c'est la fête de la sortie du désert et de la vie dans le désert.
Ouais.
Bah, vous savez, dans le désert, c'est pas rigolo, il y a des cailloux, il y a du soleil, des chapeaux, hein, il fait chaud. Et c'est pas rigolo, on sait que dans le désert, il y a eu des choses qui se sont passées, des révoltes du peuple d'Israël. Mais c'est ça qu'ils célèbrent. Ils célèbrent ce 6 jours dans le désert. Ouais, c'est vraiment curieux. C'est un jour de joie. Enfin, c'est même une semaine de joie. Verset 14. Et ils trouvèrent écrit dans la loi de l'Éternel, qu'avait prescrite par Moïse, que les enfants d'Israël devaient habiter sous des tentes pendant la fête du septième mois, et proclamer cette publication dans toutes leurs villes et à Jérusalem. Allez chercher à la montagne des rameaux d'olivier, des rameaux d'olivier sauvage, des rameaux de myrte, des rameaux de palmier et des rameaux d'arbres touffus, pour faire des tentes comme il est écrit. Donc, on avait une tente bien hermétique, où on ne voyait rien à l'intérieur, probablement, avec tout ce qui est touffu, là, hein, et on pouvait être dans une petite tente comme ça, hein, c'était bien. Alors, le peuple alla chercher les rameaux, ils se firent des tentes sur le toit de leur maison, dans leur cour, dans les parvis de la maison de Dieu, sur la place de la porte des eaux et sur la place de la porte d'Éphraïm. Toute l'assemblée de ceux qui étaient revenus de la captivité fit des tentes. Ils habitèrent sous ces tentes. Depuis le temps de Josué, fils de Nun, jusqu'à ce jour, les enfants d'Israël n'avaient rien fait de pareil. Et il y eut de très grandes réjouissances. On lut dans le livre de la loi de Dieu chaque jour, depuis le premier jour jusqu'au dernier, on célébra la fête pendant 7 jours, et il y eut une assemblée solennelle le 8e jour, comme cela était ordonné. Voilà, la joie de l'Éternel est devenue leur force, et vous avez vu comment ça a démarré, par simplement quelques petites larmes qui coulaient des visages, et que Néhémie et Esdras et tous les scribes ont repéré. Ils ont repéré que le peuple avait conscience de son péché. Mais ce n'était pas pour être écrasé par son péché. C'était pour en être libéré. Dieu ne peut nous libérer que si nous sommes authentiques, si je suis authentique et que je montre qui je suis et que je ne fais pas semblant. Que je ne fais pas semblant. Voilà. Le peuple est passé de la tristesse à la joie. Finalement, ce qui s'est passé au temps de Néhémie, en moins 450 avant Jésus-Christ, ça s'était déjà bien passé avant. Du temps de Moïse, nous n'allons pas relire les chapitres 32, 33, 34, parce que là, on en a pour un certain temps, mais on va faire un résumé. On va faire un résumé. Dans Exode, au chapitre 19, le beau-père de Moïse dit au revoir à Moïse, il retourne au pays de Madian. Et à partir du chapitre 20 d'Exode, vous avez le livre de la loi. Hein, vous vous souvenez, Exode 20, vous avez le livre de la loi. Hein. Dieu donne des lois sociales également, que les Hébreux vont suivre jusqu'au chapitre 23 de l'Exode, hein, du livre de l'Exode. À partir du chapitre 24 du livre de l'Exode, Dieu explique à Moïse qu'en plus de la loi, il faut autre chose. Il faut encore autre chose. Il faut la loi, mais il faut autre chose. Il doit avoir une alliance avec le peuple d'Israël. Une alliance. Il y a la loi et il y a l'alliance. Et Dieu fait monter Moïse et les principaux responsables sur le mont Sinaï. Et si vous lisez, vous verrez qu'il y a un drôle de truc, il y a un soubassement de saphir transparent. Saphir, c'est un peu transparent, mais pas beaucoup. Donc, ça devait être bleu transparent, et qu'il y avait quelque chose au-dessus, mais qu'il ne voyait pas grand-chose, mais qu'il voyait quand même quelque chose de solennel, quoi. Hein. C'était pas... enfin c'était pas inquiétant, mais c'était quand même solennel. Hein. Donc Moïse, plus tous ses responsables, vont sur le mont Sinaï. Et là, Dieu demande à Moïse de se séparer des responsables et de se mettre à côté, enfin, je ne sais pas où, mais de se séparer. Et Dieu descend, mais il met 7 jours à descendre pour aller chez ses responsables, non, pour aller voir Moïse. Il n'autorise Moïse à entrer dans la nuée que 7 jours plus tard. Donc Moïse est séparé des gens, il est là devant cette nuée, et il reste 7 jours là, tout le monde là comme ça, et puis à un moment donné, tu peux rentrer. 7 jours. Moïse restera dans cette nuée 40 jours et 40 nuits. Et au bout des 40 jours et 40 nuits, à peu près un mois et demi, le peuple commence à se demander, mais d'où de chez qui il est ce Moïse? Hein? Est-ce qu'il est encore vivant? Exode 32. On se rend compte que Dieu a du mal à supporter ce peuple d'Israël. Il sépare, il ne permet pas d'être vu, hein? Et il n'y a que quelques privilégiés qui ont le droit de le voir, et encore. Puisque Moïse, même le privilégié, ne le verra pas. Il verra que son dos. On se rend compte que Dieu a du mal à supporter ce peuple d'Israël. Ils sont tellement idolâtres, parce que pendant ce temps-là, vous savez ce qui se passe, c'est le veau d'or. C'est le veau d'or. Et Dieu décide de les anéantir. Dieu décide d'anéantir le peuple juif. Ouais, Hitler a essayé, mais je veux dire, pour une mauvaise cause. Hein, mais Dieu, pour une bonne cause, décide d'anéantir le peuple juif. Est-ce que Dieu a tort? Parce qu'on se pose des questions. Hein. On se dit, mais quand même, hein, Dieu anéantit un peuple et le peuple qu'il a choisi. Est-ce que vous pensez que le jugement de Dieu est excessif? On a tendance à dire oui, mais on dit, mais non, enfin, je ne peux pas me permettre de dire que Dieu est excessif dans ce qu'il dit. Qui suis-je pour juger de ce que fait Dieu? Et Dieu venait anéantir le peuple juif. Au verset 9 et 10 du chapitre 32 de l'Exode, on s'aperçoit qu'il était moins une. Encore un peu, et on n'aurait plus jamais eu souvenance du peuple juif. À peine sorti d'Égypte. Vous avez remarqué ce que fait Moïse? Il dit, non, si tu fais ça, Dieu, tout le monde va se moquer de toi. Le pharaon va dire, qu'est-ce que c'est que ce Dieu qui libère un peuple de ma main pour qu'ensuite, après avoir prétendu le libérer, il le détruise? C'est ce que dit Moïse. Il argumente. Il fait marcher ses cellules grises. Moïse, il y a donc des bons arguments. Moïse a le souci de l'honneur de Dieu et il a aussi le souci de la vie. Il ne veut pas qu'aucun périsse, Moïse, mais il veut que tous parviennent à la lucidité de leur situation, pour que tous parviennent à la repentance, pour être ensuite sauvés. Si Moïse n'avait pas défendu le peuple d'Israël, aujourd'hui on parlerait que des descendants de Moïse. On aurait eu des mosaïques, si vous voulez. Enfin, pas les petits machins, hein, mais des gens, on ne les aurait pas appelés les juifs, on les aurait appelés des mosaïques, hein, peut-être. Les juifs auraient été anéantis si Moïse n'avait pas défendu leur cause auprès de Dieu. Je vous dis tout ça parce que c'est du sérieux, vous comprenez? C'est un peu comme avec Néhémie, hein, les gens sont là, puis tout coup on commence à leur lire la loi, et puis, oh, les visages se ferment, les visages deviennent sérieux, les visages tremblent, et les yeux commencent à se mouiller, et les gouttes tombent des joues. C'est sérieux. Et du temps de Moïse, c'était sérieux aussi. Et Moïse, il a dû faire des pieds et des mains pour empêcher, entre guillemets, Dieu de tuer le peuple juif. Et Dieu n'avait pas tort. Mais Moïse a gagné. Parce qu'il est un intercesseur. Il est le type de Jésus-Christ. Dieu, en tout cas, ne veut plus vivre trop près de ce peuple. Il ne peut pas le supporter. On le voit dans Exode, chapitre 32, versets 3 à 6. Dieu ne supporte plus ce peuple. Il ne le supporte plus. C'est un petit peuple en nombre, Il nous est dit dans Deutéronome chapitre 7, verset 7, que c'était un petit peuple méprisable. Méprisable du point de vue nombre, je pense, hein. Pas forcément méprisable du point de vue péché, parce que qui est le peuple sur la terre qui peut prétendre être moins pécheur qu'un autre? Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, Dieu ne veut plus côtoyer. Hein, soyons sensibles à ça. Je veux dire, on dit, oh, le Seigneur Dieu a aimé son peuple. Oui, il a aimé son peuple. Il a aimé Abraham, il a aimé tout le peuple. Il a aimé tous les peuples. Dieu aime le monde entier. Mais il ne peut pas supporter le peuple qu'il a choisi, tellement ce peuple est énormément pécheur. Il ne peut plus vivre trop près du peuple. Alors, Exode 33, verset 7, on voit Moïse met la tente d'assignation, qui a priori n'est pas encore construite, c'est juste une tente, mais je n'ai pas l'impression que les ustensiles sont déjà faits, tout le système, c'est vrai, liturgique. Enfin, en tout cas, cette tente de la rencontre du tabernacle est bien en dehors du camp. Vous le voyez dans verset 7 au chapitre 33 d'Exode. Il n'est pas au milieu du camp. Il est vraiment loin. Et les gens, ils voient Moïse partir, et il s'en va là-bas, là où il y a la tente, et puis ils voient la nuée qui descend de la tente, et ils voient qu'entre Moïse et Dieu, il y a quelque chose qui se passe, mais eux, ils sont pas dans le coup, quoi. Ils se sentent pas bien, hein, parce qu'ils sentent qu'ils sont pécheurs, ils sentent que Dieu est quand même fâché, quoi. Très, très fâché, quoi. Alors, vous savez, quand vous avez une autorité comme ça qui est fâchée contre vous, vous n'êtes pas bien, quoi. Hein. Donc, Moïse met la tente d'assignation en dehors du camp, avec une bonne distance d'avec le peuple. Et ce n'est pas encore le divorce, si vous voulez, entre Dieu et son peuple, mais on sent que c'est en train de se faire, quoi. Ils sont très éloignés, quoi. Et Moïse revient à la charge. Moïse a réussi à éviter que le peuple soit détruit après l'épisode du veau d'or. Mais les choses ne sont pas encore tout à fait réglées. Et Moïse revient à la charge. Il revient à la charge et il dit, écoute Dieu, si tu n'es pas au milieu de nous, ça n'ira pas. Tout le monde saura que tu n'es pas au milieu de nous. Il faut absolument que tu sois au milieu de nous. Il réinsiste auprès de Dieu. Et c'est ce qu'on voit dans Exode 33, versets 12 à 17. Exode 34, versets 8, 9 et 10. Exode. À 17. Moïse dit à l'Éternel, voici, tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, Dieu a dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, et je trouverai encore grâce à tes yeux. Considère que cette nation, c'est ton peuple. Donc, il se met en avant, il dit, voilà, tu m'aimes bien, Dieu, mais je ne suis pas tout seul, il y a le peuple. Je sais très bien, tu vas me répondre que ce peuple, non, tu n'en peux plus, tu ne t'en veux plus. Mais c'est ton peuple. L'Éternel répondit, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. Moïse lui dit, vous voyez ce qu'il dit, Dieu dit, non, moi je marche avec toi, je ne marche pas avec le peuple, je marche avec toi. Et alors Moïse, il dit, mais Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas ça, partir d'ici, c'est pas la peine. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Vous voyez, Moïse insiste, hein. C'est un diplomate, il est diplomate avec Dieu. Il est intercesseur auprès de Dieu. Ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? On a besoin, ils ont besoin de savoir que tu es au milieu, parce que s'ils savent que tu n'es pas au milieu, mais ils vont te les tuer, tu te rends compte, Dieu? Alors, oh, nous, on sera bien beaux, comme deux ronflants, toi et moi, et puis il n'y aura plus de peuple. Donc, il faut que tu sois au milieu du peuple. Ne sera-ce pas quand tu marcheras, verset 16, avec nous, et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre. J'ai comme l'impression que cette intercession de Moïse, elle existe encore aujourd'hui. Que si le peuple d'Israël existe encore, c'est encore un exaucement de la prière de Moïse face à Dieu. Et verset 17, l'Éternel dit à Moïse, « Je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » On est vraiment dans le profil de Jésus-Christ. Moïse est un précurseur de Jésus-Christ. Et Exode 34, versets 8 et 9, versets 8 et 9 du chapitre 34, « Aussitôt, Moïse s'inclina à terre et adora, et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple court, raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Prends-nous pour ta possession. Moïse revient à la charge, heureusement, pour le peuple. Comme Abraham, au moment du jugement de Sodome et Gomorre, les gens se souviennent toujours que Dieu est un Dieu punisseur, etc. Mais nous, on se souvient d'une chose, c'est qu'Abraham, il a intercédé pour ces gens-là. Il a intercédé à tel point, il dit, mais si on a cinq, tu ne vas quand même pas tuer tous ces gens. Pour les cinq justes, manque de peau, il y avait quatre justes. Et encore, parmi les quatre justes, il y en avait quelques-uns qui n'étaient pas top. Ah, Abraham insiste parce qu'il sait que Dieu est juste. Ici aussi, Moïse argumente avec Dieu parce qu'il sait que Dieu est juste. Alors, c'est là que nous comprenons que le péché, c'est quelque chose de bien plus grave que j'imagine, qu'on imagine. On a tendance à s'habituer à être pécheur. C'est vrai. D'ailleurs, le Seigneur nous demande de confesser nos péchés, donc nous sommes pécheurs. Puis, en tant que chrétien évangéliste, nous sommes pécheurs. C'est presque une moulinette, quoi. Hein? Mais Dieu, lui, ne s'y habitue pas. Pour moi, pour vous. Puis, dans Exode 34 à 40, à Exode 40, Dieu explique comment il pourra rester au milieu du peuple, tout en étant séparé du peuple. Et vous connaissez la suite. Au milieu du camp, carrément au milieu, il fallut construire une enceinte de 55 mètres sur 30, à peu près, dans laquelle il y avait différents ustensiles, différents mobiliers, et une petite tente rectangulaire dont nous allons parler en conclusion. La première chose qu'un Israélite voyait de cette enceinte, c'était une grande muraille opaque, de toile blanche, haute de 2,50 m. Si vous avez un petit garçon ou une petite fille, papa, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ben, il n'y a pas grand-chose, c'est un mur. Hein, c'est pas comme les murs qui se passent actuellement là-bas pour séparer les Palestiniens des nains, mais ça ressemble un petit peu. C'est un peu ça. Hein. La première chose qu'il voyait, c'était ça, cette grande muraille de toile. Mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Est-ce que c'était une salle des fêtes? Est-ce que c'était le palais de Moïse et Aaron? Est-ce que c'était un parlement avec des sièges pour chaque notable? Est-ce qu'il y avait une statue à l'intérieur? Une statue de Dieu? À quoi pouvait bien servir ce truc-là au milieu du camp? T'es au milieu du camp. La première réponse qui était importante, c'est ceci. Emmanuel. Pas toi, hein? Enfin si, toi quand même, mais nous tous, Dieu avec nous. Dieu est avec nous. C'est ce que voulait Moïse. Dieu avec nous. Moïse avait réussi à fléchir le cœur de Dieu pour que Dieu accepte d'être au milieu de son peuple, carrément au milieu. Hein? Vous avez en tête peut-être les plans que vous avez dans vos Bibles, etc. Puis vous voyez, Gershom, Merari, machin, ils sont tous là, les Lévites autour du camp au milieu, là. Et puis Moïse et Aaron devant la porte, là, du parvis. Et puis d'autre côté, Ruben, Simeon, Lévi, Judas, Issachar, Zabulon, Nephtali, etc., tout le monde, hein, toc, il était carrément au milieu du camp. Dieu est avec nous. Moïse avait réussi à fléchir le cœur de Dieu. Ouf! Carrément au milieu. Seulement, il y a un gros problème. Exode 33, verset 20, nous le dit. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir. Et vivre. Il y a un autre texte dans Habacuc, que vous connaissez aussi, très, très connu, chapitre 1, verset 13. tes yeux sont trop purs pour voir le mal. Comment est-il? C'est complètement incompatible pour Dieu d'être au milieu du camp et avec sa personnalité par rapport à la personnalité de tous ceux qui l'entourent. Il faut quelque chose. Il faut tout un système, il faut un rituel, il faut quelque chose pour montrer la différence. Il faut montrer aussi, non pas la différence par rapport à Dieu dit je suis supérieur et vous, vous êtes des larves. C'est pas ça, c'est Dieu est saint et vous, ben, vous devez vous approcher de la sainteté et ça ne va pas se faire sans, comme ça, hein, de manière désinvolte. Ou, hein, voilà, c'est pas possible. L'Israélite avait le droit de rentrer, mais pas sans rien, vous savez. Dans cette tente, enfin dans cette partie. Il fallait qu'il amène à Dieu quelque chose, un animal pour le sacrifice, ou de l'argent pour acheter son premier-né, ou le premier-né de son âne. Hein? Exode 34, verset 20. C'était sérieux, c'était très sérieux. Le problème du péché est tellement énorme qu'il fallait que Dieu le fasse comprendre à tous les êtres humains qui entraient pour le rencontrer. Il fallait qu'ils comprennent que c'était très grave. On ne peut pas imaginer un gars qui vienne, il ouvre le machin, il fait « Ouais, salut, je vais voir le copain, mon copain. » « Mon copain, c'est Dieu. » Non, hein, non, c'était pas ça, du tout, du tout. Mais le plus important, ce n'était pas le péché, le problème du péché. C'était de croire que l'on pouvait voir Dieu comme on va voir son Père. Si on y allait sans prendre conscience de la gravité des choses, ça n'allait pas. Dieu désirait une prise de conscience pour aller plus loin, pour que nous allions plus loin avec lui, et nous, lui avec nous et nous avec lui. Et quand on a pris conscience de la gravité du problème, alors Dieu dit « J'accepte le sacrifice. Je te pardonne parce que je t'aime. » Ce n'est pas le pardon qui importe. C'est pas le pardon qui importe. Ce qui importe, c'est que tu sois libéré de ton péché. Si ton enfant vient te voir et te demande pardon, c'est pas... ça te fait plaisir, bien sûr. Mais ce qui est plus important, c'est pas tellement qu'il vienne... penser la blessure de la meurtrissure que tu as eue, toi, parent, mais c'est surtout que tu es content que ton enfant est dans l'authentique. Il aime ça, le père, la mère. J'accepte le sacrifice, je te pardonne parce que je t'aime, ce n'est pas le pardon qui importe, ce qui m'importe, c'est que tu sois libéré de ton péché. Alors la joie de l'Éternel devient ta force. Quand tu es libéré de ton péché, il y a une joie qui vient de Dieu, qui est ta force. Tu peux venir ensuite près de la cuve, parce qu'il venait, il faisait sacrifice de son agneau sur l'autel, et comme on l'a évoqué il n'y a pas longtemps, la première chose qu'on voyait quand on rentrait dans cette enceinte, c'était pas réjouissant, c'était du sang, des animaux qui criaient parce qu'ils allaient mourir, on les mettait à brûler sur l'autel, je vous assure que c'est pas sympathique du tout. C'est pas sympathique du tout. Et c'est la première démarche de repentance vers Dieu. C'est comme ça que ça marche. C'est le début, c'est pas rigolo, quoi. Et ensuite seulement, quand on a été libéré de cette culpabilité, on s'approche de Dieu et ça devient plus sympathique. Il y a la cuve des reins, qui a comme fonction pour les sacrificateurs, mais nous sommes sacrificateurs, d'être lavé, purifié. Purifié par quoi? Eh bien, dans Éphésiens chapitre 5, verset 22, vous le voyez, on est purifié par Jésus-Christ, par le bain d'eau de la parole. C'est-à-dire que la parole vient travailler dans notre cœur et cette parole a un effet particulier de nous purifier. La joie de l'Éternel est d'abord notre force et ensuite on vient se nourrir de Dieu, on vient se rafraîchir auprès de Dieu. Tu peux venir ensuite près de la cuve pour être lavé par le bain d'eau de la parole. Tu vas comprendre le texte biblique de plus en plus et ensuite tu vas comprendre ce que j'ai prévu pour toi. C'est ce qui s'est passé pour ces gens de Néhémie, hein, du temps de Néhémie. Ils ont compris ça. Ils se sont réjouis à cause de ça. Dieu n'est pas un père fouettard mais quelqu'un qui veut de l'authentique et qui nous amène à sortir de notre péché. Ils avaient compris les paroles qu'on leur avait expliquées. Ensuite, tu pourras entrer dans la maison en toile. Et là, il y a un chandelier, il y a la table des pains et il y a le parfum. Tu es dans la lumière, tu entres avec Dieu dans la lumière. Tu entres avec Dieu pour te nourrir, pour avoir une communion, un espèce de repas avec lui, où il y a la boisson et où il y a la nourriture. Et ensuite, il y a le parfum, le fameux parfum qui est juste devant le dernier truc à voir. Et le parfum, c'est l'adoration, c'est l'expression de l'amour. Ensuite, Dieu dit, je te ferai même entrer dans l'autre partie où il n'y a qu'un seul meuble, un seul. Les chérubins et la petite tache de sang au centre du couvercle qui rappelle quoi? Qui rappelle que tu as été sauvé par grâce. Et dans ce coffre, il y a la loi qui est au fond de ton cœur. Il y a la nourriture que Dieu te donne. Et il y a aussi l'autorité du grand prêtre, Jésus-Christ. Mais pas tout de suite. Ça marche progressivement. Et ça commence par ce terrible événement de l'autel. L'autel où l'agneau, il est brûlé sur l'autel. Alors, on voit que le Seigneur ne nous amène pas à la repentance. Franchement, c'est pas ça qu'il cherche. C'est l'après-repentance. Dieu désire l'après-repentance, et pour qu'il y ait l'après-repentance, il faut qu'il y ait d'abord la repentance. Et c'est vrai qu'il nous faut cette lucidité sur nous-mêmes, et c'est ce qui s'est passé pour Néhémie, enfin pour les gens de Néhémie à l'époque. Ils ont compris. Ça a commencé par les larmes, parce qu'ils se sont aperçus de ce qui se passait dans leur cœur, en entendant la loi de Dieu. Mais ensuite, ils ont eu cette joie de l'Éternel. Donc je vous encourage à exprimer cette joie de l'Éternel qui est finalement notre force. C'est ça, notre vraie force. Et la joie de l'Éternel vient par le Saint-Esprit, ça c'est sûr, c'est la force du Saint-Esprit. Mais ça vient aussi de nous, de notre joie d'être libéré, d'être, en psaume 32, d'être libéré de notre transgression. Je vais terminer par la prière, frères et sœurs. Seigneur notre Père, notre Dieu, nous te rendons grâce parce que c'est vrai, tu désires non pas que nous soyons dans la tristesse comme du temps de Néhémie, mais qu'après cette tristesse, nous puissions être dans la joie, non pas une joie profane, mais cette joie de l'Éternel qui nous fait comprendre que tu as bien de gros projets merveilleux pour chacun d'entre nous. Il ne s'arrête pas à la mort et ses projets sont basés sur l'authentique. Tu veux que nous soyons vrais devant toi. Seigneur, apprends-nous à être vrais devant toi.